Bonsoir, bienvenue sur La Courte Échelle, comme tous les dimanches soirs, en direct de Radio Galère 88.4. Bienvenue.
Bienvenue.
Ce soir, nous sommes quatre, avec Jojo.
Et ouais, salut.
Romzy.
Salut.
Charlie.
Salut.
Et moi, Liane.
Salut.
Donc, La Courte Échelle est une émission qui est contre toutes les formes d'enfermement et qui a hâte de l'abolition des prisons. Et qui est joignable par plusieurs moyens, donc au téléphone, en direct, vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Sinon, vous pouvez nous écrire par mail à la-courte-échelle@riseup.net. Et sinon, vous pouvez nous écrire par courrier à La Courte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003, Marseille. Et ce soir, on va...
On parle de quoi ce soir ?
On parle de plusieurs sujets. On va... Enfin...
On parle de prison ?
On parle de prison.
On a, pas
on a,
que, hein.
On a plusieurs petits thèmes, mais on va commencer par parler des grèves de marathon. Le gros coup de gueule de cette semaine, puisqu'il faut chier.
Ouais, gros coup de gueule. Ouais.
Et après, on parlera... Enfin... On vous laissera découvrir peut-être. Ça sera plus simple.
Ah ouais, suspense carrément.
Suspense. Non mais vas-y, je peux dire tout ce dont on parle. Après, on va parler un peu de la grève localement, de ce qui se passe, mais aussi un peu de ce qui se passe à Moulins. On va relayer l'appel de la famille de Mehdi qui s'est fait tuer la semaine dernière par la Mumu qui appelle à témoignage pour se défendre en justice contre l'État et protester contre la police qui a exécuté Mehdi. Ensuite, on parlera vite fait d'une revue qui parle de prison en Palestine.
Samidoun, ouais.
Portée par Samidoun. Et avec le temps qui restera, on mettra la suite de l'épisode du 8-12 qu'on avait lancé il y a deux semaines. L'épisode du 8-12, je veux dire par là, un podcast pas fait par nous, mais fait par des potes à Lyon. De Minute Décousu qui parle de l'affaire du 8-12 dont le procès va bientôt commencer.
Ok.
Mais du coup, pour commencer, on parle d'abord des grèves de marathon.
Ah, il y a plus de... Je t'entends plus.
Ah bon. Et du coup, là...
Je t'entendais plus, pardon.
Du coup, pour commencer, on va commencer par parler des grèves de marathon.
Pour commencer, on commence. Ça marche. Bah du coup la grève des matons, les matons faisaient grève parce qu'il y a trop de gens en prison. Donc c'est trop bien, ils ont ouvert toutes les portes, ils ont laissé sortir tout le monde.
Ouais.
C'est allez, vrai.
Ouais ouais voilà, franchement merci à eux, ils font ça. Eh bah non, en fait ils ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah comme d'habitude, ils ont mis sous pression les prisonniers, ça a été la merde. Du coup avec un camarade, un copain, on a été... Du coup la grève c'était le lundi. Ils ont pas dit qu'ils allaient pas renouveler, et du coup le mardi il y avait parloir, donc c'était un peu le stress de pas mal de familles, de gens qui venaient voir leurs proches en prison parce qu'ils avaient peur qu'il y ait pas de parloir. Il y avait encore les scotchs sur les portes pour empêcher les gens de passer, et finalement il y a eu parloir.
Mais on a le mardi.
Ouais, le mardi, ouais.
Mais pas le lundi.
Non, le lundi il n'y a jamais parloir, je crois.
Ah ouais.
Ouais, je crois que c'est dimanche et lundi, il y a pas parloir au Baumettes.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas parloir, ouais.
Voilà. En tout cas, partout en France, il n'y a pas eu de parloir là où il y avait des grèves de matons.
C'est ça.
Donc, coup de bol pour les Baumettes, c'était un jour, en tout cas pour les familles. Un jour, il n'y a pas de parloir. Mais ce qu'ont dit les familles, c'est qu'il n'y a que la gamelle qui est rentrée, il n'y a rien d'autre qui est rentré. Du coup, ça met quand même bien dans la merde les prisonniers qui n'ont pas pu valider notamment leur appel téléphonique. Moi, j'ai parlé avec une famille. Donc le proche était rentré depuis quelques temps en préventive au Baumettes, et du coup ça veut dire que c'était une qu'il a pas encore eu son procès, et en prévention il est incarcéré, et en rentrant il a fait un AVC, et du coup il s'est fait poser un stent à l'hôpital juste après, quelques semaines après, et de ce fait il a à prendre des médicaments tous les jours. Et ben, à cause de cette grève des matons, il n'a pas pu avoir ses médicaments du tout. Donc c'est comme ça aussi que ça met sous pression. Il n'y a pas eu, enfin les prisonniers sont restés totalement dans leur cellule. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu d'autre
En général, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas aussi le linge. On ne peut pas laver le linge, on ne peut pas sortir les poubelles. Enfin, il y a ce genre de problème qui arrive systématiquement, quoi. Et on peut rappeler d'ailleurs que, en fait, s'ils veulent faire grève les matons, le premier truc qu'ils pourraient faire, notamment s'ils sont pas contents qu'il y ait trop de gens en prison, ils ont qu'à juste, en fait, bloquer les tribunaux. Il y a un truc assez simple pour le faire, c'est il faut bloquer les tribunaux, bah, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de prisonniers qui vont en prison. Et, donc même s'ils n'ont pas les moyens, soi-disant, d'ouvrir les portes des prisons, machin truc, bah, en tout cas, ils peuvent faire un truc très concret, dans leurs moyens, tout à fait, c'est de bloquer les tribunaux. Ils ont jamais les matons n'ont bloqué le ministère de la justice ou les tribunaux lorsqu'ils voulaient faire valoir leurs droits. Ils ont toujours pourri la vie des prisonniers et de leurs proches.
Carrément.
Ce qui montre bien que c'est des fascistes.
Et d'ailleurs, un des trucs que j'ai appris, je me permets, là en allant voir les projets prisonniers pour les parloirs, c'était coup de bol, je suis tombé avec deux personnes, c'était leur première visite, leur premier parloir. Et ensemble, on a pu faire une réservation de parloir et faire découvrir à l'une des deux familles qui venaient comment on faisait. Donc, il faut s'inscrire sur le site internet de France Connect. Enfin, il faut aller sur un site de gouvernement, se connecter avec France Connect pour ensuite mettre s'identifiant et son droit de visite, et ainsi que le nom de la personne qui est en prison pour pouvoir ensuite réserver. Il y avait plein de problèmes, etc. Et c'était intéressant d'apprendre, justement, en discutant avec les gens autour, tous les problèmes qu'il y a autour des parloirs, comme des fois le site marche pas, même quand tu es inscrit et t'as aucune réservation.
Il y a des prisons où le site n'est pas possible pour les prisonniers, par exemple à Moulins, comme il y a un quartier central et un quartier maison d'arrêt. Le site il marche pour le côté maison d'arrêt, mais du coup pour le côté en centrale il faut systématiquement appeler la prison et la prison ne répond pas parce qu'il dit, il perd du principe que en fait il faut faire en ligne. Okay. Et du coup en fait il faut appeler pour réserver en centrale, sauf que la prison part du principe qu'il faut faire en ligne et du coup on n'a pas envie de répondre et du coup il faut les harceler pour pouvoir avoir un parloir.
Bah, c'est exactement ce qu'a dit une des personnes avec qui j'étais, qui pouvait plus réserver dans ce quartier là où était son proche. Et elle a dû aller voir l'administration plusieurs fois pour essayer d'avoir un rendez-vous, parce que normalement elle avait droit à 3 rendez-vous par semaine, mais ça s'est transformé en un seul rendez-vous parce qu'ils peuvent pas te donner plus à l'administration. Et c'était forcément le samedi. En plus, un jour qui l'arrangeait pas du tout. Voilà, que dire d'autre sur ce qui s'est passé avec cette grève des matons. Moi, j'ai eu aussi à discuter de la difficulté du linge avec ces personnes qui étaient en premier parloir. Parce que de ce que j'ai compris, c'était deux personnes qui étaient encore au quartier arrivant, qui dure un mois quand tu arrives en prison. Je pense qu'environ un mois, tu restes dans le quartier arrivant. Et qu'après, par la suite, tu passes dans un autre quartier qui t'est destiné. Mais là, du coup, au Baumettes, tu peux déposer ton linge tel jour. Je crois que c'est peut-être le jeudi ou le mercredi, en tout cas un jour par semaine. Sauf que le problème, c'est que si tu n'as pas de permis de visite, une fois que la personne est maintenant enfin, je vais plutôt le raconter comme l'ont dit mes gens, c'est-à-dire que eux ont des difficultés, ils n'ont pas pu déposer leur linge 3 fois de suite. Une première fois, c'est parce qu'en fait, comme ça tourne les quartiers où ils peuvent déposer le linge et les jours, il n'y avait pas eu de mise à jour entre le SPIP qui leur disait de venir tel jour et la réalité. En fait, ça concordait pas, donc ils sont venus un jour, ils ne pouvaient pas déposer le linge. Le deuxième jour, ils arrivent pour déposer le linge, donc bien plus tard dans le mois, parce que c'est pas toutes les semaines non plus. Et en fait, leur proche n'est plus dans le quartier arrivant et ils ne peuvent plus déposer le linge parce qu'il y a une loi, du coup, plutôt qui est, de ce qu'on a compris, destinée aux internes au Baumettes, qui ne permet plus, si tu n'as plus de permis de visite, tu peux déposer ton linge une fois tous les 6 mois. Et donc pour eux, ça a été beaucoup plus pratique de faire un droit de permis de visite que pour pouvoir déposer le linge, que d'attendre 6 mois pour donner du linge aux proches. Voilà, après ça a été assez fortement la merde ce mardi-là pour le parloir, parce qu'il y a eu énormément de retard et que du coup les gens ils prennent un rendez-vous un peu à un horaire fixe, mais après ils bossent. Et il y a eu pas mal de gens qui étaient assez en tension, ce qui est normal parce que eux, quand ils ont 5 minutes de retard, ils sont pas acceptés. Par contre, là, l'administration pénitentiaire des Baumettes avait à peu près 40 minutes de retard. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur les gens que j'ai rencontrés Ben, pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait une petite solidarité entre personnes qui venaient visiter contre la situation, contre la prison et contre les matons. Et que j'ai l'impression que les matons ont eu quand même, en foutant sous pression les prisonniers, gain de cause, si je ne me trompe. Je crois qu'ils ont un peu eu le droit à des réservations en plus dans certaines prisons, notamment à Luynes, où ils ont mis la pression parce qu'il va y avoir un QLCO qui va ouvrir, et que comme être maton, c'est un concours. Et donc, s'ils ont gain de cause, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui auront le concours, qui seront placées directement à Luynes pour aller y bosser et faire un sale boulot.
Ouais, on vient de parler de comment c'était la grève au Beaumont. Il y a eu aussi elle a eu lieu dans beaucoup de prisons en France, notamment aussi localement à Arles, où il y a Vic qui est en lien avec une personne à l'intérieur qui disait que ils n'avaient pas eu d'activité et qu'ils n'avaient pas eu non plus de promenades, un peu partout, mais bon, à Arles aussi c'était assez fort. Mais pareil, je crois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'il n'y avait que la gamelle à manger et que les bons de cantine n'arrivaient pas, c'est ce que tu disais au début.
Ah ouais, il y a aussi les validations de téléphone, de crédit téléphonique qui n'ont pas été validées. Ce qui fait que tu ne peux pas appeler, quoi.
Voilà.
Ouais. Ouais, ça les altère pas. Enfin, tu ne peux pas recharger ta cabine, tu ne peux pas parler avec tes proches dans ce genre de bail. Il y a aussi la tôle de Moulins qui a été bloquée lundi dernier. Je crois qu'il y a au moins un quart des tôles qui ont été bloquées en tout, au moins. Et du coup, à Moulins, il n'y a pas eu de promenade pareil, il n'y a pas eu d'accès aux soins, il n'y a pas eu de douche et il n'y a même pas eu de courrier pour les prisonniers. Et il n'y a personne qui a pu mettre le pied en dehors de sa cellule, sauf le... Le pote qui disait qu'il a dû harceler son avocat a harcelé la tôle parce qu'il avait besoin d'aller à l'infirmerie, il était blessé et en fait il y serait jamais allé si son avocat le baveux il avait pas harcelé la tôle, quoi. Et ce jour-là, il racontait aussi que le chef de détention et les surveillants ça parlait trop mal et ça manquait tarpin fort de respect aux prisonniers. Et du coup à Moulins, à la centrale de Moulins, les surveillants disaient que leur revendication là, comme les autres, c'est de se battre contre la surpopulation carcérale. Mais ouais, la centrale de Moulins, y a pas de surpopulation carcérale, MDR. Vraiment ça, pas là.
En fait, en centrale, y a pas de surpopulation. Ouais. Parce qu'ils veulent pas des révoltes de prisonniers. En fait, les prisonniers qui sont en longue peine en centrale, ils ont pas grand chose à perdre. Quand tu as 20, 30 ans à faire. Et notamment, ce que tu as à gagner, c'est ne pas être à plusieurs en cellule. Donc, ils ne préfèrent pas le faire pour des raisons sécuritaires.
Du coup, ils ont construit assez de centrales pour eux.
Et ils ont construit assez de centrales. Du coup, ils ont préféré mettre les sous pour construire assez de centrales.
Alors, comme vous entendez, bon, d'abord, ils s'en foutent. Mais en plus, il y a aussi le fait que une très, 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 très grosse partie des prisonniers, c'est des courtes peines en France. Et que c'est aussi
ça.
Pour ça que,
c'est exactement ça
que la surpopulation carcérale est dans les maisons d'arrêt. Je sais pas si on allait enchaîner, mais...
Je voulais donner une dernière info sur Moulins. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais du coup, Moulins, c'est la première tôle où les élèves, ils ont des chiens à l'intérieur pour les fouilles de cellules. Et voilà. Genre, petite info de merde en plus. Les élèves accompagnés de Yinche.
En tout cas, il me semble qu'ils sont au Beaumont à l'extérieur, avec les chiens.
Ouais, mais du coup, là, c'est à l'intérieur.
Ok.
Et... le pote, il disait que c'est bien la première tôle où il se passe ça. Mais oui, au Beaumont, les proches se font renifler par les hanches tout le temps, là, en ce moment.
Ouais, effectivement.
C'est vénère.
Là, pour la grève, le seul avantage, c'est qu'ils sont passés, mais qu'ils n'ont pas reniflé les proches.
Ouais.
D'ailleurs, c'est un peu bizarre comme système syndical, quand même, comme tu disais, de... finalement mettre la pression à ceux qui sont plus dans la merde que toi, les laisser pas sortir, pas de médicaments, plutôt que justement mettre la pression à ceux qui sont au-dessus de toi, qui pourraient être les juges et bloqués.
Le principe des luttes syndicales, théoriquement, c'est de lutter contre ses patrons, ceux qui décident pour toi, en fait, et contre toi. Et du coup, bah, si t'es pas content de comment le ministère de la Justice fait en sorte qu'il y a trop de gens en prison ou je sais pas quoi, bah, en fait, la meilleure des façons de le faire, c'est d'empêcher ce système de continuer. Mais bon, et le problème, c'est que... voilà, y a... les syndicats de hommes armés en général, que qu'ils soient travailleurs dans les fourgons blindés ou dans la police ou dans l'administration pénitentiaire, ben généralement ça amène à des logiques idéologiques un peu distinctes du syndicalisme habituel.
Carrément.
Pour rester poli.
En tout cas, bah grosse force à toutes les personnes qui ont subi cette grève. on le dira jamais ailleurs que pour les prisons, mais dans les prisons on est contre je sais pas si on peut appeler ça une grève, c'est pas vraiment des travailleurs qui s'organisent contre le capital comme tu veux le dire, mais vraiment des faves corporatistes qui défendent leurs conditions, leur confort habituel au détriment des personnes plus dans la merde.
C'est clairement grosse corporatiste force, comme logique.
Grosse force à tous les prisonniers qui en ont pâti. J'espère que ça va s'arrêter là et que vous serez bientôt libres tous. Je sais pas comment finir cette phrase.
Ouais, c'est ça qu'on veut, ouais. on voulait redonner aussi des infos qu'on vous avait passées la semaine dernière sur Mika et redonner le numéro de la centrale. Je sais pas, tu veux dire un mot toi ou pas?
Ben, j'ai pas des nouvelles hyper croustillante, disons, sur Mika récente, mais on peut dire quand même que c'est récent là qu'il a signé sa demande de transfert en CD. Il a signé ses demandes de nouveau. Enfin voilà, en tout cas, c'est un prisonnier voilà, qui, comme je pense vous l'avez suivi depuis quelques temps si vous écoutez l'émission, est un prisonnier longue peine en centrale. Et donc pour la première fois, là, il y a un espoir assez concret d'être transféré vers un CD et donc d'envisager une potentielle sortie. Pas pour tout de suite évidemment, mais c'est le début de la fin du tunnel, disons.
Ouais. Ça faisait notamment partie de ses revendications quand il avait fait une grève de la faim et de la soif. Du coup, ça avance petit à petit.
C'est ça.
Et du coup, concernant Moulin, la centrale où il est, ça leur sert de la bouffe périmée. Et on en avait parlé la semaine dernière. Et si vous avez envie de nous aider à harceler la tôle de Moulin pour que ça bouge, parce que c'est pas possible de servir de la bouffe périmée aux prisonniers, je redonne le numéro. C'est 04 70 35 15 00. Et du coup, moi je redonne 04 70 35 15 00. Et ça renvoie sur un sommaire. Et c'est possible de parler avec le secrétariat de direction ou le service PIP voilà, pour faire en sorte que ça bouge et foutre la presse à la paix.
Trop bien, ouais. N'hésitez pas à le faire, c'est important. Et là, on est où?
Et bah...
dans l'émission, on fait quoi?
On avait envie de parler de MeToo aussi.
Oui.
Ouais. Qui suis-je?
Et du coup, bah, pour enchaîner, on en a très rapidement parlé à la toute fin de la dernière émission dimanche dernier. Mais on se disait que ça pouvait peut-être valoir le coup de revenir dessus encore une fois cette semaine, parce que c'est très grave. Il y a une personne qui s'est fait tuer par la police la semaine dernière à Marseille, par la police municipale. La brigade Canyon, précisément. Donc, c'était une personne de 26 ans. C'était jeudi 23 avril. Qui était au volant de son véhicule et au téléphone au volant, ce qui est très grave et qui, selon les policiers de la municipale, méritait la mort. Et du coup, il est mort de 3 balles. Voilà, j'ai pas les mots, c'est hardcore.
Il a été tué dans quel quartier, t'as dit?
Le 11e, je crois.
À Marseille, dans le 11e, il me semble.
Okay. Rue des...
les trois boulevards des Libérateurs.
Ça.
Les...
Patrimoine de la Valentine.
Au début, il n'y a pas d'enquête qui a... Enfin, non. Ils ont mis du temps avant d'ouvrir une enquête pour... Au début, ils avaient juste ouvert une enquête de flagrance et après, ils ont fini par mettre une enquête pour homicide volontaire. Bon, il y a la famille qui va essayer de se battre pour avoir un peu... Enfin, pour saisir la justice et voir... avoir des... Au moins avoir la vérité sur l'affaire, parce que les seuls témoins, c'est les keufs, et que leur version, c'est évidemment qu'il a été agressif. Et du coup, bah, on trouvait que ça faisait sens de relayer l'appel à témoins des proches qui a été fait, qui a été fait sur les réseaux. Et
est-ce que tu peux nous dire un peu
la semaine dernière.
Ouais, justement, nous dire un peu le contexte où il y a eu aussi cet appel à témoins.
Tout à fait. Alors, pareil, j'en ai parlé dimanche parce que c'était dimanche, mais je peux le redire. La semaine dernière, il y avait une très belle exposition de rue organisée par SAVE, Stop aux violences d'État, le collectif qui lutte avec plusieurs familles de victimes de violences policières et d'assassinats policiers. Sur le Vieux-Port, il y avait une exposition et un rassemblement en même temps pour parler de tout ça.
Parce que du coup, c'était la date anniversaire, c'était l'anniversaire de Swell, je crois, que Sam, son père.
Samedi 26 avril, c'est le 26 avril, c'est l'anniversaire de Swell, et du coup, là, c'était samedi l'anniversaire, et du coup, dimanche, l'événement. Et il y a Issam qui est très investi dans cette lutte et qui porte, et qui a beaucoup.
Swell qui, du coup, est la personne qui a été abattue.
À une rue d'ici, de la radio. Ouais.
Exactement, à la Belle de Mai, juste à côté. Place Cannes.
Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole pendant cet événement. Et c'était très bien. Et, et notamment, les proches de Mehdi, je crois que c'est sa cousine, qui est venue pour un appel, pour faire cet appel à témoins et en parler très rapidement. Et on va partager ce qu'elle a dit.
Usage de téléphone. Aujourd'hui, une cellule de psychologie a été ouverte pour les policiers qui l'ont tué. Mais pour nous, on nous a laissé. Il a été placé sous X, même pour avoir des informations. Si c'était lui, si c'était pas lui. Alors aujourd'hui, on lance un appel à témoins pour toutes les personnes dans le 11e, parce que c'est un endroit sans caméra ou des caméras tenues par la municipale, dont on n'a pas encore accès, on n'a aucune information pour savoir si quelqu'un a vu, a entendu ou qui a pu assister à cette scène, parce que c'est dans un boulevard assez vide, il y a des usines de travaux. Et donc voilà, si vous pouvez partager, faire entendre pour que mon cousin m'ait dit et justice pour qu'on cesse. Nos frères, nos cousins, nos familles. Voilà. Justice pour Mehdi.
Justice pour Mehdi.
Justice pour Mehdi.
Voilà, c'était un rapide audio qui s'est dit dimanche. On n'a pas trop. C'est un peu intense. On n'a pas trop prévenu que ça allait être aussi hardcore comme petit passage. J'espère que ça va les auditeurs, mais on trouve ça quand même important de relayer. Et voilà, si jamais, n'hésitez pas à chercher la page Stop aux violences d'État pour contacter si vous avez quoi que ce soit, si vous avez été témoin ou que vous voulez soutenir cette lutte de manière générale.
Clairement. Et quiconque a
sur Instagram.
Quiconque a des informations, c'est pas uniquement dans le processus judiciaire contre les policiers, etc. Enfin, la démarche de la famille, là, de porter plainte, etc., c'est pour avoir la vérité. C'est extrêmement important, en fait, de pouvoir faire le deuil de son proche, en sachant, en fait, dans quelles circonstances a eu le drame. Et que, en fait, c'est essentiel pour se reconstruire de faire cette démarche. Et que, évidemment, très probablement, en fait, les gens qui ont tué Mehdi ne vont pas avoir de gros soucis dans leur vie. Ou en tout cas, on leur souhaite, mais voilà, ils ne vont pas en avoir beaucoup, a priori. Et ce n'est pas une raison pour se dire que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça permet la reconstruction des gens autour de Mehdi.
Ouais, carrément. Et vous pouvez aussi, si vous connaissez des gens dans le 11e, en tout cas en parler, c'est important aussi, parce qu'il n'y a pas eu trop de relais dans les médias non plus. Et du coup, on parlait dans, notamment dans le 11e. Si vous connaissez des gens, juste demandez s'ils ont vu. Et allez sur la page Instagram de SAVE Save pour transmettre les informations.
Ouais, Save pour Stop aux violences d'État. Et je propose qu'on fasse une pause dessous. Ça vous fait. Et ben, on va écouter Molenbeek ou Deifa. Et on vous retrouve après.
À tout de suite.
Molenbeek, 96 000 habitants, une commune défavorisée. L'explication est peut-être à trouver dans la situation économique de Molenbeek. Ici, le taux de chômage côtoie les 30%.
De nouveaux échanges de tirs dans la commune de Molenbeek, ce n'est pas une première. Les autorités locales sont conscientes de ce problème qu'ils qualifient de global.
Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek.
Des mecs en Lacoste TN qui sont bien sûr du Aya. Des mecs qui portent des Jordan mais qui fuck Bardella. Ici le majeur te nargue et l'index enlève la V. Parfois payer le plein prix parce que c'est moins cher que gratuit. Face à ma plume et mes écrits, la concurrence est en sueur. Ici les frères n'aiment pas Satan mais ils ont tous un petit cœur. Y'a que les blagues de riches qui font marrer les michetos. Tu peux demander à Jaydon, sur le terrain j'ai le sang chaud. On est les plus menottés, on est les plus détestés. L'immigration a le mal de mer, l'équipage est sans papier. Sur le terrain je me fais désirer parce que je suis tellement doué. J'aurais que mes comptes avec ces gens qui m'avaient pas calculé. T'étais trop fort mais t'as flopé comme Sangohan et Quaresma. Double contact sur la ligne comme Moussiala ou Iniesta. Et on rêvait tous d'une finale Portugal-Argentine. Entre succès et jalousie, la frontière est si fine. Ici peu importe l'origine, ça parle entre mes airs. Le bitume et la BA nous a vu grandir. Pour toi une salle enroule, pour nous c'est vite fait. Ouais, c'est normal, t'es un Olympique. Ici peu importe l'origine, ça parle entre mes airs. Le bitume et la BA nous a vu grandir. Pour toi une salle enroule, pour nous c'est vite fait. Ouais, c'est normal, t'es un Olympique. Entre nos rues et la violence, mais juste un trait d'union. Des armes à cœur et du courage, c'est l'image de l'écusson. Ici les petits vont t'allumer, histoire de pouvoir t'éteindre. Même enfermé, j'ai la banane, du coup les flics me traitent de singe. La bague me laisse des bleus, bavure policière française. Ici y'a pas de jour de paix, mais gros big up à 113. Et nos rues ont du charme, du coup les keufs sont séduits. La seule chose sur laquelle tu tires, toi, c'est ta garrette. La vérité sort de la bouche des mecs qu'on gueule sur la tempe. Et puis nos rues c'est la jungle, normal que la prison nous branche. On kiffe nos mères, tu kiffes la stupe, on n'a pas la même héroïne. Et vu que la misère s'assemble, je suis un Congolais de Palestine. Une bonne patate peut t'ouvrir les portes du respect, frérot. J'ai un pétard sous l'oreiller car mes cauchemars veulent ma peau. On a tellement de blessures profondes donc on peut pas se tatouer. Éduqué par la rancune, comment veux-tu pardonner? Ici peu importe l'origine, ça parle entre mes airs. Le bitume et la BA nous a vu grandir. Pour toi une salle enroule, pour nous c'est vite fait. Ouais, c'est normal, t'es un Olympique. Ici peu importe l'origine, ça parle entre mes airs. Le bitume et la BA nous a vu grandir. Pour toi une salle enroule, pour nous c'est vite fait. Ouais, c'est normal, t'es un Olympique.
Et salut, salut. On est toujours sur la courte échelle. Émission ouais. Contre la tôle, contre toutes les prisons. Et on voulait continuer. C'est bah déjà envoyer plein de force à la MIF de Mehdi. Et j'espère qu'il y aura des personnes qui pourront filer des infos et les soutenir là-dedans. On voulait continuer notre émission en parlant de Samy Doun et de la prochaine sortie. Sauf si vous vouliez rajouter d'autres trucs.
Non, je pense qu'on peut, on peut enchaîner.
Oh, carrément.
Et tu n'avais pas ton micro, pardon.
Ouais, j'allais dire, désolé. J'allais pas très bien, ouais, j'étais loin.
Mais qu'est-ce que c'est Samy Doun alors?
Exactement, qu'est-ce que c'est Samy Doun? Bah tiens, je sais pas, répondre à la question, c'est quoi Samy Doun?
C'est un réseau d'entraide de soutien aux prisonniers palestiniens, non?
Ouais, ouais, carrément, pour... souvent, on va parler de leurs conditions de détention, du système d'apartheid israélien, parce que les Palestiniens sont jugés sous la cour martiale, et de transmission ouais, de différentes informations. Bah là, justement, il y a Samy Doun Paris banlieue qui lance le premier numéro d'un magazine consacré aux écrits des prisonniers et prisonnières palestiniennes et palestiniens, avec pour thème inaugural... Transformer la prison en école de la révolution. Donc voilà, c'est un projet qui vise à rendre accessibles les textes qui ont pu être sortis des prisons coloniales et que du coup qui sont considérés comme essentiels, parce qu'ils occupent une place centrale dans voilà, les mobilisations et qui nourrissent aussi nos réflexions ici sur la Palestine et la lutte de libération nationale de la Palestine.
Et dans, bah, dans le pod, la, c'est, la sortie est prévue pour mai, il me semble, de, du premier numéro. Et il présente ainsi: nous sommes heureuses de vous présenter Al Hawda, un magazine dédié à la littérature carcérale et de résistance palestinienne. La littérature carcérale désigne les textes des prisonniers prisonnières palestiniens palestiniennes écrits en clandestinité lors de leur incarcération dans les prisons sionistes ou après leur libération. Interviews, études, essais, romans, poésie, théâtre, communiqués politiques. Le type de ces écrits est riche et varié. Le but de ce magazine est donc de compiler et traduire ces textes afin de les rendre accessibles à un public francophone pour permettre une meilleure compréhension de la lutte de libération nationale palestinienne. Nous considérons ces prisonniers prisonnières comme l'une des franges les plus avancées de la résistance palestinienne et leurs textes sont autant de manuels de lutte dont nos mouvements sociaux doivent prendre, connaissance et étudier en conséquence.
Voilà, et le magazine s'appelle Al Hawda. Et ça veut dire, je crois, le retour ?
Moi, j'en sais rien.
J'ai regardé la traduction parce que je, c'est du classique et je con. Voilà. Mais je crois que ça veut dire le retour.
Des fois, on dit.
Voilà, et d'ailleurs, vous pourrez suivre sûrement sur cette émission d'autres témoignages de prisonniers et prisonnières palestiniennes qui parleront aussi de la prison.
Et voilà, et donc évidemment, comme tous les contenus dont on parle à l'antenne, on peut évidemment l'envoyer à l'intérieur si on en nous fait la demande. D'ailleurs, on va vous demander n'importe quel livre avec lequel on est un minimum d'accord, même si c'est un roman, je pense qu'on vous l'enverra. Mais
on le trouvera, là, on fera en sorte de le trouver.
Mais donc évidemment les livres qui parlent de prison et de lutte dans les prisons c'est avec plaisir qu'on vous les envoie.
Grave.
Et on va terminer l'émission avec la suite d'un enregistrement qu'on vous avait déjà passé. Est-ce que tu veux le présenter, Liane?
Oui, bah on a, enfin donc il y a deux semaines on a passé le début d'un, d'un podcast fait par Menu Décousu. Et je pense que la, enfin bon, vers Lyon, qui parle de l'affaire du 8-12. Donc l'affaire du 8-12, c'est l'État qui s'est acharné sur des militants considérés comme de l'ultra gauche en considérant qu'ils étaient, ils fomentaient un projet terroriste, ce qui pour cette fois-ci n'était pas le cas.
Et surtout, les gens se connaissaient même pas entre eux. Donc, pour avoir sa association de malfaiteurs, c'est un peu difficile à mettre. Voilà. Et il n'y a aucune preuve matérielle de ce, cette association de malfaiteurs.
Oui, on a hâte qu'il y ait des attentats terroristes faits par l'ultra-gauche pour pouvoir les dire que c'est, ça se questionne et qu'on, qu'on soutient aussi ces prisonniers-là. Mais là, il n'y a même pas lieu, puisqu'il n'y a vraiment aucun fait. C'est vraiment un commenté, c'est pas le mot, mais c'est vraiment l'État qui a fait cette affaire de toute pièce à partir de rien, quoi.
Mais le gros scandale de ce, ce premier procès, c'est qu'en fait, les gens ont été quand même condamnés. Alors certes, à du sursis et compagnie, mais en fait, déjà, il y a ce sursis qui risque de retomber parce que déjà, ils n'ont rien fait. Donc s'ils refont rien une deuxième fois, ben, ils pourraient aller en taule. Et en plus, ils sont inscrits au FIJET, le fichier des infractions terroristes, je sais pas quoi. Enfin, bref. Oui. En gros, ils sont fichés à vie dans ce fichier. Qui est extrêmement chiant, par exemple, pour aller à l'étranger, il faut avoir l'autorisation de l'État. Il faut, je sais plus c'est quelle fréquence, mais il me semble que c'est tous les 6 mois, il faut prévenir la police de notre lieu de résidence habituel, ce qui suppose d'en avoir un, déjà. Mmh. Et ainsi de suite.
Ouais, enfin.
Donc c'est pour ça que les gens font appel.
FIJAIT, c'est fichier des auteurs d'infractions terroristes, comme tu viens de dire.
Voilà, et c'est pour ça que les gens font appel.
Mais oui, moi, la semaine dernière, j'ai... il y a deux semaines, on a passé le début du podcast. Donc, c'est, on va mettre là, on va reprendre là. On s'était arrêté si jamais vous écoutez depuis l'extérieur les podcasts et que vous n'avez pas écouté le début, n'hésitez pas à retourner écouter l'émission d'il y a deux semaines où on avait aussi vraiment récapitulé plus dans le détail toute cette affaire et expliqué plus les tenants et aboutissants. Mais on s'était arrêté. On avait récapitulé tout, mais pas tout à fait la fin. Donc moi, ça m'allait bien de juste redonner les peines qui ont été donner, peut-être avec les prénoms puisqu'ils sont publics, et que je trouve que c'est cool de mettre des humains derrière ces 7 personnes dont on parle souvent. Donc Florian, Libreflow, qui est au centre de qui est la seule personne qui connaît les diverses personnes du groupe, autour de qui s'est concentrée cette affaire. Il a pris 5 ans, dont 30 mois de sursis probatoire, et il lui reste 8 mois de bracelet à purger, enfin il lui est resté à la suite de la condamnation en 2023. Simon, il a pris 4 ans, dont 25 mois avec sursis probatoire. William, 3 ans, dont 20 mois avec sursis probatoire. Les deux, il leur restait 12 mois de bracelet après le jugement en 2023. Camille, 3 ans, dont 2 ans avec sursis. 8 mois de bracelet qui lui restait à purger. Manuel, 3 ans, dont 15 mois avec sursis. 11 mois de bracelet qui lui restait. Et Bastien, 3 ans avec sursis. 3 ans avec sursis. Et pour Loïc, 2 ans de sursis simple. Et pas c'est le seul qui n'a pas eu d'inscription au fichier des auteurs d'infractions judiciaires à caractère terroriste. Je ne sais plus si c'est ça exactement, le FIJIT. Mais donc, en fait, ce qui est un peu hardcore aussi, j'ai l'impression qu'on peut. L'État, il essaye un peu de garder la face aussi avec ses condamnations. En fait, il a mis des personnes en prison avant, comme il le fait tout le temps, avant de les condamner. Du coup, ils ont fait énormément de préventifs. Du coup, il va jamais admettre ses torts et dire je les ai enfermés pour rien. Du coup, il les a condamnés, même au procès, c'était criant que c'était ridicule et qu'il n'y avait pas tellement de preuves concrètes, quoi.
On peut rappeler d'ailleurs à ce titre que Libreflow avait fait une grève de la faim assez vénère, qui avait duré plusieurs semaines. Pour demander sa sortie d'isolement et sa sortie de prison lorsqu'il était en préventive, et il a effectivement fini par obtenir cette sortie de prison pour raison médicale, parce qu'il était prêt à mourir, enfin il était très proche du décès pour une année, pas parce qu'il mangeait plus. Et Libreflow, à ce titre, d'ailleurs, j'y pense, il a écrit un livre récemment, là, il a sorti un livre qui raconte cette période-là, sur sa période en détention, à l'époque où il n'y avait pas encore eu il a sorti le livre après, mais à l'époque où il n'y avait pas encore eu le procès, il raconte cette période-là. Et du coup, il y a des textes qu'il a écrits en prison, ça revient aussi, il y a des entretiens avec lui sur cette période. Et ce livre est, donc je me souviens plus le titre, mais il a été publié aux éditions du Bout de la Ville, et il est gratuit pour tous les prisonniers et prisonnières. N'hésitez pas, si vous écoutez cette émission, que vous êtes à l'intérieur, que vous avez des proches à l'intérieur qui voudraient lire ça, on peut vous l'envoyer très facilement.
Le titre, c'est « Anticiper le bruit sec des verrous ». Et ça fait quand même beaucoup de fermes et beaucoup de bracelets et beaucoup de sursis pour du vent. Bon, après c'est toujours beaucoup trop, et du coup il y a l'appel qui est en cours en ce moment, presque maintenant là, qui va commencer très vite, donc ça c'était les jugements qui ont été faits en 2023. Les personnes qui ont été condamnées ont fait appel, et c'est maintenant que ça se passe, les procès en appel. Ils auront lieu du 4 au 7 mai, du 11 au 13 mai et du 20 au 22 mai à Paris, dans la cour d'appel de Paris, sur l'île de la Cité. Si jamais vous avez la motivation absolue de monter jusque là-bas parce que vous êtes dehors, n'hésitez pas, parce qu'il y a un appel à être un peu présent devant, et c'est cool s'il y a du monde pour soutenir. Voilà, si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog des comités du 8-12, où il y a vraiment beaucoup de contenu pour suivre cette affaire.
Ouais, carrément. Et merci Jojo d'avoir décrit comme ça un peu l'affaire. Je trouve des fois c'est important de bien démonter le narratif de l'État, et des fois juste en disant, tu vois, association de malfaiteurs. Ça fait un peu fantasme de « Ah, en fait, ils se connaissaient, mais c'est forcément passé un truc. » Et en fait, le dossier est complètement vide.
Complètement vide. Le seul truc qu'on leur reproche matériel, c'est qu'ils ont appris, pendant le Covid, pour se marrer, à faire des pétards dans leur jardin. Voilà. Et de jouer à l'airsoft comme, en fait, l'essentiel des keufs de ce pays. Donc, en fait, ça voudrait dire que tous les keufs sont des terroristes ? Ou alors, enfin, j'ai pas bien compris, mais en tout cas, reprocher à quelqu'un de jouer à l'airsoft qui est, un loisir sportif qu'on peut faire ou pas, mais en tout cas est totalement autorisé par la loi. Donc le reprocher à quelqu'un, ça voudrait dire de le reprocher à tous les autres. Et dans ce cas-là, reprochons effectivement, regardons toute la liste des gens qui jouent à l'airsoft.
Grave, d'ailleurs, le podcast en parle un peu, peut-être on peut enchaîner comme ça, on écoute
on écoute un peu leur voix.
Ouais. Ça part pour le podcast qui est rendu à peu près à la moitié du premier épisode. À toutes.
Le matin, donc là, pour le coup, comme c'est les premières auditions se font le soir, bah, c'est juste avant la première audition, pendant environ 20 minutes, je dirais. Et après, s'il y a plusieurs auditions qui se suivent dans la journée, on ne peut pas avoir de nouveau un entretien, et même si on change d'avocat. Donc moi, ça a été le cas après la deuxième audition, j'ai demandé à avoir une autre avocate qui avait été choisie, là, et pas commis d'office. Et la DGSI a bien insisté à me dire que, du coup, attention, déjà, je risquais d'avoir plusieurs auditions sans avocate parce que ça allait être compliqué, le temps de la faire venir, etc. Ce qui était faux, en fait, parce qu'elle est arrivée très vite. Et par contre, j'ai pas pu m'entretenir. Donc voilà, il y a vraiment juste cet entretien qui est assez rapide, qui est derrière une vitre, genre un hygiaphone, dans une pièce où on se dit « Oula, mais c'est sûr, il y a des micros quelque part dans cette pièce. » Et après, pas possible de recommuniquer. Et même pendant les auditions avec les enquêteurs, l'avocat n'a pas le droit de prendre la parole, sauf à la toute fin pour dire s'il a des remarques ou pour dire des choses genre « Je pense que mon client a besoin de manger » ou quelque chose comme ça. Mais pas possible d'intervenir sur les questions posées ou de parler à la personne qui est alors en garde à vue. Et donc ça, c'est assez difficile parce qu'en fait... on a un avocat, mais sur le moment, il n'y a pas de communication possible, donc c'est assez compliqué.
Pareil, première avocate. Déjà, elle se tutoie avec les agents, ils se connaissent par leur prénom. Bon, enfin, sur le coup, je me mets pas à l'instinct, genre, ah, ça pue, mais ça me tique, je fais. Après, elle fait, bon, les avocats qui agissent régulièrement dans un commissariat, pourquoi pas, quoi. Mais ça me tique quand même. Et assez vite, j'ai fait, mais il y a des gens qui sortent de ce brebis et tout. Elle me fait, ah, moi j'en ai vu qu'un, une fois, qui est sorti. Mais généralement, ça se finit mal. Mais bon, pour que ça se finisse bien, faut pas hésiter à parler. Elle me dit, cash, faut que tu parles. Bon. Toi, tu sais pas dans quel brebis t'es en mode, ok, tu fais confiance, mais du coup, un peu pas confiance, c'est un peu bizarre. Deuxième audition, justement, là, j'ai mon avocate qui arrive. Et je me retrouve dans la fameuse pièce avec le plexiglas. Parce que la première, j'ai jamais vu derrière un plexiglas. Je l'ai vu dans les couloirs, en mode normal. Je me demande même des moments si c'est pas carrément une flic qui se fait passer pour une avocate. J'en suis à ce stade-là, parce que tu comprends pas ce qu'il en est, quoi. Et avocate, bah, pareil, le plexi, je pense que c'était la même pour tout le monde. Genre, on est à la DGSI, on n'est pas sûr qu'il y ait le secret professionnel, donc de toute façon, tu vas fermer ta gueule, tu vas garder le silence ici, tout le temps, quoi qu'il arrive, en audition, et même là, mais je commence à essayer de parler, j'essaie de fermer, je comprends pas, machin et tout. Elle me faisait comprendre, ta gueule, même ici, ta gueule, c'est... On fait ce qu'on peut et juste tais-toi. C'était un peu compliqué à comprendre sur le moment. Enfin, toujours dans l'état de sidération, de choc. Mais je vais me sortir de ce bourbier vite parce que je comprends pas pourquoi je suis là. Et bon, c'est un réflexe à avoir. Il faut avoir ce réflexe. On le répétera jamais assez. Donc ouais, et du coup, pas mal de off. Donc t'as les auditions, les coups des caméras qui s'éteignent, on te parle, etc. Moi, j'ai pas eu trop d'intimidation devant mon avocat. Enfin, pas de mémoire, je pense que. Mais c'était plutôt dans les couloirs et dans ma cellule. Typiquement, à un moment, il y en a un qui vient me voir, qui était pas un enquêteur, qui était, on va dire, l'homme à tout faire. Enfin, qui s'occupait de tous les menus paperasses, des petits trucs administratifs. Qui vient me voir, qui fait, est-ce que je peux prendre dans ta fouille de l'argent pour qu'on aille acheter un médicament pour ta copine? Bah oui. Et puis il me dit, ouais, mais tu sais, machin, enfin, en essayant d'être gentil pour t'amener à dire, regarde, on n'est pas méchant, etc. Et c'est constamment que du ça, en fait. C'est, t'as l'audition, qui est des fois même violente, comment ça se passe, et t'as le off où, oui, mais regarde, ah, t'es dans un brebis, c'est un peu le chaud et le froid constamment, genre. On te met la pression, t'es dans la merde, t'es vraiment dans la merde, t'as intérêt de parler, si tu veux te sortir de là, t'as intérêt d'enterrer ton pote, quoi. Et puis, à côté, non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas, on se joue à ce jeu-là constamment, quoi.
En fait, bon, nous deux, déjà, on sait qu'on s'est fait arrêter en même temps. On comprend assez vite qu'on est plusieurs dans le couloir parce qu'il y a des chaussures dans les premiers jours. Il y a les chaussures devant chaque cellule, donc on comprend qu'on est plusieurs. On ne sait pas qui sont les autres, mais en tout cas, on comprend qu'on est plusieurs. Et en tout cas, ils jouent assez vite sur, quand on est deux, à savoir qu'il y a une autre personne qui s'est fait arrêter, l'un ou l'autre est en train de parler. Donc toi aussi tu devrais parler parce que donc ils utilisent beaucoup les biais de attention, il est en train de craquer. Pourquoi toi tu craques pas? C'est quand même bizarre. Ils l'ont utilisé pour tous. Et il y a aussi du off pendant les auditions. Je pensais que tout était retranscrit et c'est en relisant bien plus tard, plus d'un an plus tard, d'avoir accès au dossier qu'ils ont tout de suite chargé le pote Libreflow. À partir de la deuxième ou troisième audition, je dirais que c'est très très chargé sur lui en disant que ils l'ont arrêté le doigt sur la gâchette. C'était le moment où j'avais déjà gardé le silence depuis un moment, mais je pensais que ça faisait partie donc de ce qui était écrit dans le procès-verbal et pas du tout parce que c'est complètement faux et que du coup ils ont pas pu l'écrire dans le procès-verbal, donc ça faisait partie du off. Donc il y a du off pendant les auditions qui est faux et voilà, ils balancent des trucs pour essayer de voir comment tu réagis, et il y a ce off aussi quand les avocats sont pas là. Et moi notamment, ils m'avaient mis un peu la pression en me disant t'as décidé de garder le silence, c'est pas du tout bon pour toi, tu seras déféré. Et en fait, je savais pas ce que ça voulait dire déféré. Donc d'un côté, je sais pas si c'est pas plus mal que je sache pas, mais du coup, je me suis dit je sais pas ce que c'est. Je vais pas demander et voilà, je serais peut-être déféré. Bon, voilà, pour le coup, après j'ai compris ce que c'était et je l'ai pas été, mais voilà, en fait, ils sont tout le temps dans un truc de menace et de on joue sur la corde sensible, on sait que un tel a une relation avec un tel ou qu'ils sont très potes ou ils jouent vraiment là-dessus et en fait, ça ajouté à l'état de sidération, à l'état de choc, à la gravité du chef d'accusation, vraiment ça te retourne le cerveau. C'est vraiment très très dur.
Il y a ce moment où on te montre les photos des co-inculpés. Et du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je ne connais personne, par ma compagne et Libreflow. Et c'est ce genre de moment, enfin moi personnellement, qui m'ont rassuré, parce que je me suis dit, ils sont en train de me dire des dingueries, je sais pas. Pas ce qui s'est passé. Bon, il s'est rien passé. À ce moment-là, tu le sais pas qu'il s'est rien passé. Mais il y a que des gens que je ne connais pas. Et du coup, tu te dis, en fait, ça te rassure un peu. C'est en mode, enfin, tu n'as pas encore l'envers du décor qu'en fait, il n'y a pas besoin de connaître les gens pour être dans un bourbier d'association de malfaiteurs. Mais toi, sur le moment, t'es en mode, ça va aller. Parce qu'en fait, je connais pas ces gens-là. Je suis clean. Je peux prouver que je suis clean. Ça va couler de source. Enfin, t'as encore un petit peu ce truc. Un peu nier, te dire, je vais pas dire foi en la justice, mais dire foi en la vérité, il peut y avoir que ce qui est, et vu qu'il y a rien, il peut y avoir que du rien. Tu déchantes très très vite. Ça, c'est un peu la journée sans fin, jusqu'à un moment je me retrouve pareil dans une pièce où là il y a tous les flics. Je suis vraiment comme si c'était un grand open space avec une grande table ronde, il y a plein de flics, un vidéo proche, et là je vois le juge d'instruction, mais je comprends bien plus tard que c'est lui le juge d'instruction. Sur le coup je comprends pas du tout ce qui se passe, je me dis c'est qui ce gars là qui me parle, je comprends rien de ce qu'il me dit. Enfin, j'ai passé je crois les 4 jours de la DGSI plus les 3 premiers jours de détention, ça fait 7 jours, 3/4 du temps en larmes à pas comprendre ce qui se passe. Enfin, mal dormir, mal manger, en larmes, tu ne comprends pas ce qui se passe. T'as plus ton cerveau. Je me retrouve avec plein de flics autour d'une table et encore le trophée. Genre, devant moi, le grand écran avec ce que j'apprendrai plus tard avec le juge d'instruction. Et plein de flics autour d'une table.
Là, c'était la prolongation de la garde à vue. En fait, la garde à vue dure 96 heures en antiterro. Et au bout de 48 heures, le juge d'instruction, s'il veut la prolonger, il est obligé de faire une visio pour te dire en direct qu'il prolonge ta garde à vue. Et pour l'amener du coup à 96 heures. Donc on est tous passés devant cette visio un à un. Donc c'était à mi-parcours, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Pas fait tout à fait 96 heures. Je crois qu'il s'était gardé une douzaine d'heures. Il m'avait dit attention, du coup on peut te arrêter dans ces jours-ci parce qu'il te manque une douzaine d'heures qui sont un peu suspendues au-dessus de ta tête. Donc en tout cas, il m'amène dans la pièce de départ, là où on avait laissé un manteau et un sac et des chaussures. Et ils se posent la question entre eux, ils discutent en disant mais comment on fait? Parce que du coup, on l'a fait rentrer avec une cagoule. Ce serait bizarre de la faire ressortir par le parking avec toutes les plaques d'immatriculation. Mais en même temps, si on la fait sortir par les bureaux, ils discutent entre eux devant moi et ils savent pas trop comment faire. Je leur dis mais remettez-moi la cagoule sur la tête. tête. Enfin, de toute façon, je m'en fous au point où j'en suis. Ça a l'air compliqué. Donc voilà, refaites pareil. Mettez-moi la cagoule sur la tête dans une voiture et ce sera très comme à l'aller. Et voilà. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils me mettent dans une voiture qui est la voiture perso de l'OPJ qui m'a interrogé pendant 4 jours. Et il m'a lâché devant le métro de Levallois-Perret. Ils m'ont enlevé la cagoule de la tête et ils m'ont déboulé comme ça devant le métro avec mon sac où j'avais quand même, je crois, heureusement une carte bleue pour avoir acheté un ticket de métro et rentrer. Mais voilà, enfin, du coup, c'est vraiment, j'ai été lâchée comme ça en plein Levallois-Perret.
Και ξαναψάχνω για παιχνίδια στο πατάρι. Ένα χρόνο μετά ακόμα σκανάρω το ταβάνι. Είναι η τέχνη μας ελπίδα προς το κράτικο τους φράχτη. Τα παιδιά γράφουν με άχτη κολλημένα με στη λάση. Αυτή η γενιά γράφει θλιμμένη μουσική και παίζουν λόγοι. Φταίνει η τοξική γονείς που την είδανε ψυχολόγοι. Δεν τα πρέπει που οι κάθος πρέπει βγάζουν στο κατόφλι. Και μαζεύουν σώματα, ψυχές, μυαλά με στην απόχη. Μα σε στόχοι με στόχους να στοχεύουμε στα αστέρια. Αστέρια. Μαγίδες και μελανιασμένα χέρια. Τι να πουν δύο σταγόνες. Μεγαλώσαμε στην ξέρα. Μεγάλο όνομα ακόμα δεν βάζω μυαλό πατέρα. Και στην πράξη αναμασάω κάτι ιστερόγραφα που σου γράψα στα προθυράματα. Είχες ξεχάσει. Αν δεν τα έχω γραφούσα θα τα είχα αναστενάξει. Αυτό είναι για τους φίλους μου που δεν ξύπνανε τάξη. Κι είναι τόσοι. Ψάχνουν άκρες, απασχόληση και στέγη. Κάτι να τους γεμίζει να μην φεύγει. Κοιτάνε από τα δωμάτια κλειδωμένοι. Ονειρεύονται μεθυσμένοι. Ζουνε για να μην πεθάνουνε στις πόλεις τους κειμένοι.
Ensuite, le fameux déferment au tribunal. Et on arrive là au sous-sol du tribunal de grande instance. Donc porte de Clichy à Paris. Donc là je comprends qu'en fait déjà j'étais pas au tribunal mais dans les locaux de la DGCIC. Les locaux de la DGCIC ne sont pas sous le tribunal comme je pensais. Déjà il a fallu 4 jours pour percuter où est-ce que je suis. Là je te retranscris un peu ce qui m'a été retranscrit de mes avocates parce que j'ai plus l'ordre chronologique précis dans ma tête. Je sais que je suis dans l'accueil du tribunal où là je vois les co-inculpés. On est tous menottés avec un masque, avec tous les OPJ. Et je me souviens de ce moment où on m'a mis justement à côté de Libreflow et tous les autres en face de nous. Et genre vraiment, enfin moi j'ai le sentiment genre, tiens, on nous assoit de façon extrêmement précise, enfin pas pour rien. J'ai pas le sentiment genre je suis posé là pour être posé là, c'est le sentiment de on me met à côté de lui parce qu'il y a une raison, parce que je le connais. Et ils observent nos réactions. Bon, nos réactions sont simples, on a tous les yeux rouges, on est tous au bout de notre vie, donc je vois le juge des libertés. Qui me pose une question pour moi, qu'est-ce que c'est le terrorisme? Je sais même plus ce que j'ai répondu, un truc genre, je crois que c'est des gens qui butent d'autres gens, enfin, genre, t'es, enfin, vraiment le truc que de monsieur et madame tout le monde, en fait, que tu sais pas ce que c'est le terrorisme. Et, sauf que je le vois, il faut le dire, en t-shirt déchiré et leggings, je suis habillé comme ça à ce moment-là. Ça, ça a un peu son importance quand même, parce que on te présente devant des magistrats dans des conditions où t'es pas présentable, donc déjà, que tu le veuilles ou non, tu renvoies une image à la personne qui va décider pour toi que une image biaisée, de facto.
Είμαστε τα σκουπίδια που φραγκάρουν τις σκούπες στις γειτονιές μας. Σαν φατέσσερα ξύνουμε τις πληγές μας. Τρεφόμαστε από τις ανασφαλιές μας.
Et assez vite, je suis emmené à Fleury.
Γιαγιά μου είχε πει, αν δεν χτυπάς δεν μεγαλώνεις. Κι όταν το συναίσθημα τροφή το κόβεις. Γι' αυτό έκανα τις εκδορές τετράστιχα πληγές να μαλακώνεις. Όταν φεύγεις στην ομίχλη στο τετράδιο να τρυπώνεις. Μου μάθαν την επόνο στα αγρία ζώα της πόλης. Και την τέχνη τα γραφιτιά στη μεθόνη. Σε μάθα να είμαι εκεί να βάζω πλάτη όταν με σπρώχνεις. Να διαβάζω στα μάτια σου σαν τα βράδια σου κλειδώνεις. Νέα δεκαετία ίδια προτεραιότητα. Να κόψω το καφέ, το τσιγάρο, την τοξικότητα. Μεγαλώνω δυο κύκλους, κλείστους. Κάτω από τα μάτια μου τα μάτια σου φωτιά μέσα στο ψύχος. Κάνουνε συλλόγοι δικοί μου από συνταγές. Ξέρουν από τους γιατρούς της πόλης τις οικοδομές. Δαγκώνουνε όταν φυλάνε και έχουν προσμονές. Πληρώνουνε την ηθική τους με αναστολές. Γράφω με αυτούς που παλεύουνε τις ψυχώσεις. Που φάγανε τα μούτρα της τις πτώσεις. Ο χρόνος παίζει θέατρο μπροστά μας και κλέβει τις εντυπώσεις. Και στο έκρεμες της ψυχοσύνθεσης μας θα λαδώσεις. Κι όταν ο πόλεμος λήξει θα σταματήσουμε. Θα αφήσουμε στην άκρη τα μολύβια να το ζήσουμε. Κι όταν ο πόλεμος λήξει θα ξεκινήσουμε. Να ζούμε όσα δεν ζήσαμε τις μέρες που συγγίσαμε. Τα σκουπίδια που φραγκάρουν τις σκούπες στις γειτονιές μας. Στα Α4 ξύνουμε τις πληγές μας. Τρεφόμαστε από τις ανασφάλειές μας. Μόνοι μαγχωμένες οικογένειες. Τα σκουπίδια που φραγκάρουν τις σκούπες στις γειτονιές μας. Στα Α4 ξύνουμε τις πληγές μας. Τρεφόμαστε από τις ανασφάλειές μας. Μόνοι μαγχωμένες οικογένειές μας.
Le parquet d'Aix-en-Provence a donc confirmé hier l'arrestation de 15 activistes écologistes. Ils auraient participé au saccage de l'usine Lafarge de Boubelair. Ils pourraient faire partie du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. L'action s'est déroulée le 10 décembre 2022. Les activistes écologistes sont entrés dans l'usine pour y détruire des installations. À l'issue, l'usine Lafarge a dû suspendre sa production.
Le 5 et le 20 juin 2023, à l'aube, 35 personnes sont interpellées un peu partout en France sur ordre de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille avec l'appui de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Les gros moyens sont sortis, appui de la BRI et d'autres unités d'intervention. Des gus cagoulés déboulent jusqu'à 70 dans le petit village de Verfeuil, dans le Tarn. Cagoulés et armes à la main pour sortir les habitants de trois maisons devant l'intégrité de leurs voisins. Le scénario se répète à Marseille, à Montreuil, à Dijon, à Lyon, à Toulouse, à Bayonne et à Sélus. Dans le viseur, les 200 militantes écologistes qui avaient envahi l'usine Lafarge de la Malle à Bouc-Belle-Air, près de Marseille, le 10 décembre 2022, dans le but de désarmer l'usine.
Dès le soir du 10 décembre, les gros moyens sont sortis pour la SDAT qui commence par envoyer des réquisitions à l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux pour obtenir les identités liées au site et aux groupes ayant évoqué l'action. Ensuite, ils ont cherché à affiner leurs recherches en établissant un deuxième cercle de personnes proches des suspects et suspectes, en étudiant les fadettes, les virements bancaires et ont parfois, mais pour un nombre restreint de personnes, déployé ou demandé de développer des moyens de surveillance humaine ou technique. Traceurs GPS, interceptions téléphoniques, sonorisation de véhicules, boîtiers GPS ou des bagnoles, photos de véhicules au péage autoroutier, logiciels espions et IMC Catcher.
Ici à Lyon, la personne est interpellée par trois gendarmes marseillais et subit 2h30 de fouilles minutieuses de son logement. Il est ensuite auditionné 4 à 5 fois dans la caserne militaire de Perrache pendant environ 38 heures avant d'être relâché sans l'ensemble de son matériel téléphonique et informatique. D'autres personnes rapportent avoir vécu jusqu'à 76 heures de garde à vue et ont vu leur vie fouillée de fond en comble pour constituer une procédure de plus de 3700 pages. Au total, 9 personnes ont été inculpées pour détérioration du bien d'autrui par moyen dangereux, avec la circonstance aggravante de bande organisée. Cette qualification fait de cette procédure une procédure criminelle et association de malfaiteurs formés en vue de la commission d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
J'ai passé 11 mois à Fleury, passé déjà 3 jours dans le bâtiment central. Alors je pense en observation. Je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais je pense que c'est en observation parce que j'étais complètement à la ramasse largué. Vu que c'est là ensuite où on t'emmène faire les soins kinés, etc., et que tu apprends qu'on met un peu les gens qui sont nommés fous, enfin en prison. Par déduction, je me suis dit, avec les mois, j'étais certainement en observation ces 3 premiers jours. Ensuite, j'ai revu le fameux juge des libertés, donc avec des vêtements, confirmé ma détention. Et là, je suis parti au bâtiment D4, donc au quartier des arrivants au D4, donc 14 jours. Ensuite, je suis emmené au 4e étage du D4. J'ai un carton rouge sur la porte, un carton rouge, j'ai écrit 2 plus 1. Je comprends pas trop ce que c'est. Et j'apprends en fait que pour mes déplacements, il me faut 2 matons et un gradé. Je suis DPS, détenu particulièrement surveillé. Donc là, autant te dire que en gros, un gros truc genre détenu dangereux. Et puis les matons te font comprendre, t'es un détenu dangereux dont il faut se méfier. Mes déplacements au début étaient très très compliqués. Toujours entouré de matons qui te prennent de haut, qui sont sur les dents, te regardant, t'observant. Jusqu'au jour où il y a une matonne qui, au niveau des gamelles, fait « Mais tu manges du porc ?»« Bah ouais, pourquoi ?» Elle fait « Ah bon, j'aurais pas pensé. » Et là, je percute que, en fait, eux, ils ont que l'intitulé. Ils ont pas le contexte. En fait, il y a les gradés qui, par la force des choses, t'apprends qu'ils ont le contexte. Mais le simple ou la simple matone n'a pas le contexte, n'a que l'intitulé. Et du coup, bah ouais, terroriste pour eux, je suis un Daesh, en fait, clairement. Et ils tombent des nues quand ils comprennent que je ne suis pas un Daesh. Mais ça, c'est avec le temps. Là, je passe 4 mois au D4. Les 2 premiers mois sont durs, où j'ai la tête à l'envers. Après, ça, je prends mes habitudes. Enfin, tu commences à te faire à ta nouvelle cage. Enfin, tu prends tes habitudes de promenade, les gens avec qui tu causes, tu joues aux cartes, etc.
vous êtes de nouveau sur Radio Galère. Mmh.
Tout à fait, on est sur Radio Galère. Et du coup, on... à l'émission La Courte Échelle. Et on va écouter la suite.
Ton micro était toujours pas mis, désolé.
Non, mais je vais arrêter de parler. Hein.
C'est non.
Censure.
Non, mais à chaque fois, je crois que t'as le vert et t'as le jaune.
Parce que sur les micros, il y a des couleurs. Donc voilà, à la table, ils ont du mal avec les couleurs.
Vas-y, réveille ta couleur de micro, putain. Les renseignements vont tout savoir.
Pardon. Donc après ce témoignage, qu'on réécoutera la suite une autre fois dans l'émission.
Oui. La suite et la fin.
Ouais.
Peut-être.
Ouais,
fin.
C'est une grosse fin parce qu'il y en a même pas encore fait
épisode.
La moitié. Mais...
Ah, ouais. Deuxième épisode.
On va faire. C'est un feuilleton, quoi.
De toute façon, après, il va falloir faire le compte-rendu de l'appel. D'après, ouais. C'est un appel.
C'est le petit feuilleton actuel de La Courte Échelle pendant la. On s'est dit, on le mettrait pendant l'appel en procès et ça fait sens, quoi.
Donc, il y a combien de saisons?
Bah, là, pour l'instant, on a le deuxième épisode et il y a deux saisons parce qu'on a presque fini le premier épisode.
Ouais. Liane, t'as un micro, mais tu parles à côté du micro.
Et du coup, on trouvait ça. Ça a des sens de maintenir du suspense pendant toute cette période pour vous garder en haleine autour de cette affaire.
Ah, t'as une voix beaucoup plus sensuelle quand t'es proche du micro, quand même. J'apprécie. Merci.
Et sur ce, on va laisser l'antenne au PC Prog ou.
Non, on va mettre un petit son quand même.
D'accord.
Afin de laisser l'antenne.
Et après, on laissera l'antenne soit au PC Prog, soit à Perche 3000, si Perche 3000 est là ce soir.
Et on peut peut-être juste rappeler l'adresse des gens s'ils veulent qu'on leur envoie des bouquins.
Et
écrivent ici.
La Courte Échelle, Radio Galère, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Radio voilà. Galère.
N'hésitez pas.
J'ai tout dit.
Friche de la Belle-Mai.
Friche de la Belle-Mai, c'est ça.
C'est La Courte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle-Mai. 12 rue François Simon, 13003 Marseille.
Super.
À la semaine prochaine.
Ouais, force à vous.
Big up.
Cross Force.
Et on se quitte sur 1-1.
Boule et bâton.
Rappeur de Perpignan.
Et nique les matons, ouais.
Un refrain.